vous repartez dans votre mémoire, c'est quoi le premier, ou en tout cas le corps le plus libre que vous ayez vu, Ibrahim Malouf?
Le corps de ma mère.
Et voilà. Vous avez quel âge quand vous réalisez ça?
Le jour où je réalise que ma mère est libre dans son corps.
Que c'est le corps le plus libre que vous ayez vu?
Je sais qu'il est libre parce que j'étais dedans. Je l'ai vu de l'intérieur.
Et quand il joue de la musique?
J'ai pas de souvenir évidemment de ça, mais je sais que quand j'étais dans le ventre de ma mère, elle jouait du piano beaucoup. Et que ça, c'est certainement quelque chose qui m'a nourri. Même quand on est dans le ventre de notre mère, notre mémoire fonctionne. Parce qu'il n'y a pas de raison qu'un jour avant notre naissance, il n'y ait pas de mémoire et que le lendemain, il y en ait. On est déjà des êtres vivants qui avons de la mémoire. Je pense que une partie de ma mémoire musicale a été construite à l'époque où ma mère jouait de la musique pendant ses 9 mois de grossesse. Donc voilà.
Donc la liberté et la musique, ça s'est transmis?
Oui, ça va ensemble en tout cas pour moi.
Chat Gonzalez, le corps le plus libre que vous ayez vu?
Moi, c'est bizarrement, c'est le corps de mon père. C'est lui qui m'a appris à être désinhibé, à danser. Il est prof de danse. Et c'est par lui que ensuite j'ai découvert la musique. Et tout ce que je fais aujourd'hui est très lié à lui, dans plein de sens, quoi.
Et le premier corps que vous avez photographié, eu envie de photographier?
Bon, c'est des corps très, très normaux dans la rue, de gens qui passent. J'aimais beaucoup les passants.
Il y a quelque chose à dire de valable à travers toutes les civilisations, à travers toutes les histoires et les géographies, les espaces et les temps les plus divers. La peau est effectivement pour tous, que ce soit un archaïque ou un homme moderne, la peau est un axe relationnel entre le corps et le monde. C'est cette unité de mon corps qui fait que cette unité de mon corps peut s'ajuster au milieu environnant. C'est-à-dire que tout se passe comme si l'homme, au fur et à mesure de ses expériences, acquérait une certitude, celle d'une équivalence entre son corps et le monde.
Il est 23h et on passe tous la douane du regard, cette frontière invisible qui nous fait marcher différemment, nous tenir à carreau, qui traverse la colonne vertébrale et lui impose la ligne droite. Quand Alice Ripoll, chorégraphe, parle des contrôles au Brésil, ils sont bien visibles, ils sont policiers, ils séparent les quartiers, et le check utilisé pour fouiller intimide et décourage. Les corps, alors, s'en tiennent à un périmètre limité, on ne sort pas comme ça des favelas. On peut même se retrouver à terre si on ne ressemble pas assez à ce que l'on connaît. Alice Ripoll, dans la pièce à cordeau, renverse les rôles. Les 4 danseurs en bleu de travail s'éveillent, se portent et puis s'approchent pour vous prendre ce que vous avez entre les mains. Un sac ou un téléphone. Doucement, vous devrez plus tard aller reprendre ce qui vous a été pris et mettre un nom sur cette nouvelle relation. Alice Ripoll rend au corps qu'elle regarde la liberté de réinventer des liens en dehors de ceux qui sont imposés ou violents. Chat Gonzalez, elle, est repartie dans le Beyrouth où elle a grandi. Elle voulait être reporter de guerre et puis finalement elle voit que la lutte est intérieure et muette. Les premières photos, elle les prend la nuit. Sa série s'appelle Abandon, peau contre peau, des visages qui justement enfin ne se sentent plus regardés. Souvent, les yeux fermés, des corps à l'abri, qui n'ont pas besoin de montrer patte blanche pour exister ou désirer. Ibrahim Malouf rend lui aussi, en jouant avec sa musique, au corps leur liberté de bouger. Tous trois réinventent des façons de voir qui ne sont pas des passages obligés, des regards qui ne scannent personne et acceptent la beauté et l'opacité. chorégraphe brésilienne Alice Ripoll, sa pièce Cria sera présentée les 15 et 16 juin aux Rencontres chorégraphiques internationales de Seine-Saint-Denis. Elle parle français ce soir grâce à Hélène Joguet-Lejean. Il y aura la photographe franco-libanaise Cha Gonzalez qui participe à l'exposition C'est Beyrouth à l'Institut des Cultures d'Islam à Paris jusqu'au 28 juillet. Et au piano dans le studio ce soir, Ibrahim Malouf, qui prépare une tournée d'été à partir du 29 juin dans toute la France avec le groupe Aïdouti Orchestar. C'est une vie d'artiste sur France Culture, un samedi soir qui commence par la voix de Lia Rodriguez, chorégraphe à Rio.
Il y a une très belle chose que moi, je pense sur la favela, c'est qu'il y a... Il y a tout ça, mais il y a un espoir, c'est incroyable. Presque toutes les maisons, je ne sais pas, elles ne sont pas finies au dernier étage, parce qu'ils pensent toujours de continuer à construire. C'est une vision du futur quand même, un désir de vie.
Mais là, on est encore dans la ville,
c'est Rio de Janeiro.
Ah, c'est toujours Rio.
Toujours Rio, c'est énorme. Je pense qu'il y a 9 millions d'habitants, je ne suis pas tellement sûre de ces numéros-là.
Alice Ripoll, est-ce que vous l'avez senti, l'espoir et l'idée du futur dont parle Lia Rodriguez dans les favelas quand vous avez commencé à y travailler?
Lia, she works inside the favela.
Lia, elle travaille vraiment à l'intérieur de la favela.
She has a place inside a big favela in Rio. It's not
elle a un lieu
exactly
dans une
case.
Grande favela de Rio, ce qui n'est pas tout à fait mon cas.
I work with two dance companies.
Je travaille avec deux compagnies de danse. Ce sont des danseurs qui y vivent dans les favelas. Mais pour ce qui est, par exemple, des répétitions, enfin de notre vie au quotidien, ça ne se passe pas dans les favelas. Ceci étant, dans les danseurs, je sens effectivement ce sentiment d'espoir très fort, très net. Et on sent que aussi ils profitent de la vie et qu'ils ont espoir dans la vie.
Alice Ripoll, vous avez grandi à Rio de Janeiro et vous vouliez devenir psychanalyste. Qu'est-ce qui vous fait changer d'avis et vous fait aller vers le mouvement et vers la danse quand vous avez 20-21 ans?
Yes, I was studying to be
effectivement,
a psychoanalyst since I was doing psychology.
J'étais en cours de formation, je faisais
and
la psychologie à l'université, je voulais devenir psychanalyste.
Kind of,
et puis à ce moment-là, j'ai commencé à m'intéresser aux thérapies corporelles. Mais ça n'a été qu'une excuse, je pense, au final, parce qu'en réalité, ce qui m'intéressait, c'était le mouvement. Sans savoir que ça pouvait être de la danse. Donc après, je suis allée dans une école de danse où j'ai étudié. C'était déjà une école, si vous voulez, qui fait un travail sur la réhabilitation corporelle des gens, par exemple, qui ont des handicaps. Et je suis tombée amoureuse littéralement de la danse. Et je continue d'ailleurs d'utiliser beaucoup la psychanalyse. J'ai un groupe d'amis, un cercle d'amis très solide. Et moi-même, je fais une analyse. Donc, c'est quelque chose que j'ai étudié, qui reste très important pour moi et qui marque ma manière de travailler en tant qu'artiste.
Et à quel moment et avec quel danseur vous avez senti que vous deveniez chorégraphe?
It was in the school I was studying.
À l'école. Donc j'étudiais. Et je faisais un travail de groupe avec deux autres danseurs. Et à un moment, je me suis dit, il faut que quelqu'un se mette un petit peu en retrait pour prendre du recul et voir ce qui se passe. Et je me suis dit, mais en fait, le travail de ce groupe se fait beaucoup mieux comme ça. Pour vous dire qu'à l'école déjà,
composition, chorégraphie.
J'avais déjà chorégraphie, composition chorégraphique. C'était un sujet, une matière qui était enseignée. Elle m'intéressait beaucoup déjà. Après, donc, quand j'ai fini mes études, j'ai expliqué, j'ai déjà travaillé avec ces deux danseurs. On travaillait sur la chorégraphie ensemble et eux faisaient des performances. Et c'est comme ça qu'on a poursuivi aussi par la suite après l'école.
Une de vos dernières pièces, Alice Ripoll, s'appelle Accordo.
Qu'est-ce que ça veut dire en portugais?
Well, in Portuguese, it means.
En portugais?
D'accord.
Ça veut dire.
Ça
veut dire d'accord.
It's like when you fix something.
Quand on règle quelque chose.
But it also could be the verb to wake up.
Et ça veut dire aussi se réveiller.
But the way we spell the word.
Je me réveille, mais tout dépend en fait de la manière dont on orthographie en fait. On a bien fait ressortir les trois lettres C O R au milieu du accordo.
Cor,
donc en portugais, ça veut dire couleur.
Inside the word that means like an accordance.
Et donc, si vous voulez, on a un petit peu comme cette couleur qui sort au milieu de accordo. Donc cette danse.
Et dans Accordo, il y a quatre danseurs. C'était une invitation de la ville de Rio, je crois, qu'on vous a faite de réfléchir à une pièce sur le territoire. Et vous avez voulu partir du point de vue de ces danseurs. Et la pièce, elle est très particulière parce que le public est autour, comme ça, des quatre danseurs qui sont endormis au départ, qui vont ensuite se réveiller, se porter, puis arriver peut-être sur nos genoux. Et puis au bout d'un moment, on va comprendre qu'ils vont s'approcher encore plus de nous et peut-être attraper ce qu'on a dans la main si on a gardé notre téléphone dans la main ou peut-être notre sac et le donner à un voisin ou à quelqu'un, une autre personne des spectateurs ou le mettre dans leur poche. Et puis les objets vont voyager comme ça. Et ensuite, à la fin, on sera peut-être invité à aller les rechercher. Quel genre de rapport ça crée entre les spectateurs eux-mêmes, parce qu'on est en train de s'observer qui a quoi, et nous, avec les danseurs, quelle sorte de relation vous voulez créer?
I think it was important for us that
je pense que when we did this piece, ce qui était important pour nous lorsqu'on a travaillé sur cette pièce, c'est sur l'invitation d'un centre culturel qui a invité des artistes en leur disant, en fait, il faudrait répondre à une question. Quel serait l'héritage ou plutôt le legs qui resterait dans la ville events, une fois que les grands événements Jeux Olympiques seraient passés. Et comme vous l'avez dit à juste titre, j'ai essayé de voir ce que la ville donnait à ces danseurs. Ça peut être les Jeux Olympiques ou autre chose, mais la réflexion, c'était plutôt, ce sont des gens qui sont noirs, qui vivent dans une favela. Qu'est-ce que la ville leur a donné depuis qu'ils sont sur Terre?
We got to this situation, the check situation.
Et on est arrivé à cette situation du check, du contrôle d'identité,
something very common, very violent,
et qui est devenu quelque chose de très commun, et c'est aussi très violent. Hein. La police fait ça très souvent à Rio, lorsque vous entrez ou que vous sortez dans la favela. Bien souvent, il va y avoir ce contrôle de police. On vérifie si ce que vous portez vous appartient effectivement, si vous avez vos papiers d'identité. Et on est arrivé à un tel point, d'ailleurs, que cette action du check, du contrôle de police, est devenue très importante et elle fait figure, si vous voulez, de point d'équilibre à l'intérieur même de la ville de Rio.
So when you are in the shopping or when you are watching,
vous
sitting
êtes,
there watching a performance,
par exemple, je sais pas, en train de faire vos courses ou plutôt lorsque vous êtes en train de regarder les performeurs, et il y a beaucoup de gens qui se reconnaissent parce que c'est une situation qu'ils vivent aussi.
Yeah. And also, if you can do a parallel in the whole world,
et puis on peut faire un parallèle avec le reste du monde. Par exemple, si on est en Europe, vous pouvez quand même extrapoler en pensant aux gens qui vivent ça au moment où ils essayent d'entrer en Europe. L'idée, c'était que c'est que le public soit amené, si vous voulez, à mettre la main à la pâte et fasse ce que, en fait, la police fait pour eux par procuration, d'une certaine manière.
Et c'est un jeu de confiance qui s'établit, ou pas, mais qui s'établit lors de la performance avec entre nous.
Yeah.
Et avec les danseurs.
Yes, of course. This is one part of
oui,
the
bien
thing.
Sûr. Ça, c'est une partie de ce travail. Et puis, il y a un autre aspect qui est qu'il y a ce plaisir, bien sûr, de pouvoir partager les choses, lorsqu'on dit que ce que l'on a n'est pas forcément tellement important, n'a pas tellement de valeur et qu'ils peuvent tout à fait passer à quelqu'un d'autre. Il y a beaucoup de sensations qui ressortent effectivement de ce jeu-là.
Et vous parliez du tchèque, de cette, ces contrôles policiers qui sont des frontières à l'intérieur de la ville, puisque ils intimident une partie de la population. Est-ce qu'on peut vivre à Rio sans avoir la sensation que l'autre existe ailleurs parce que les frontières sont pas poreuses?
Oui, c'est possible. Il y a beaucoup de there's a lot of people that
Bien sûr, il y a beaucoup de gens qui vivent dans un quartier où il y a beaucoup de cas, où la police fait beaucoup de contrôles, et les gens qui vivent dans ces quartiers-là, vraiment des zones urbaines assez vastes où vous trouvez tout, école, centre commercial, théâtre, etc. Et on se déplace uniquement pour aller au travail. Et c'est vrai que parfois d'ailleurs la municipalité va mettre des murs, d'ailleurs. Ça va permettre de passer à travers une grande avenue. Vous allez passer le long de la favela, mais comme il y a un mur, vous n'y voyez rien. Bien sûr que c'est difficile, parce que Rio est une ville violente, mais il y a beaucoup de gens, si vous voulez, qui essayent de faire ça avec leurs œillères, de vivre leur vie, et c'est tout.
On va écouter la voix de Naïssé Lopez, curatrice, commissaire et journaliste au Brésil.
Particulièrement, moi, j'ai beaucoup de problèmes avec ces types d'énonciations comme où sont les Noirs au Brésil, parce qu'au Brésil, je ne sais pas, mais c'est différent parce que les types de racisme, par exemple, qu'on est au Brésil, c'est un racisme différent, c'est beaucoup plus politique et économique que des races, que des couleurs. Donc pour nous, il y a une chanson de Caetano Veloso qui est très bien pour ça, qui dit que quelqu'un a été presque noir parce qu'ils sont très pauvres. Tu sais, donc c'est pour moi, c'est différent d'avoir un public et de localiser ça, c'est le noir, ça n'est pas noir, parce que nous sommes tous noirs. Ici, tu sais, il y a même moi qui suis très blanche, très tous, il y a des gens noirs dans ma famille, donc c'est ça pour nous, c'est difficile. Il y a une charge politique post-coloniale pour nous, que c'est différent des pays de colonisation française, par exemple. Ici, c'est beaucoup misturé, beaucoup compliqué. Donc pour moi, la représentation noire, c'est une question difficile.
Alice Ripoll, je pense à la pièce qui s'appelle Suave, où vous reprenez les danses des favelas, notamment le passinho, et vous les retravaillez avec les danseurs. Qu'est-ce que ça a apporté dans votre pratique de la danse, vous, cette culture des favelas et la vie et la pratique des danseurs avec lesquels vous travaillez?
Well, this project was an invitation that I should work with 10 dancers from
un projet qui s'est fait sur une commande ou une invitation à travailler avec 10 danseurs qui viendraient de favela ou en tout cas qui danseraient donc le passinho qui se trouve provenir justement des favelas de Rio. Et on m'avait invité, si vous voulez, à faire une espèce de mélange entre mon contexte, tout mon bagage de danse contemporaine pour créer quelque chose, un travail donc avec ces 10 jeunes danseurs.
So yes, my interest was really on the dance because it was very, it's a very nice technique.
Ce qui m'intéressait, c'est particulièrement la danse parce que effectivement, ce sont des techniques très intéressantes, une danse urbaine très novatrice, très nouvelle.
It was very nice to work together with them.
Et ça a été très intéressant, bien sûr, de travailler avec eux.
But the dance, it brings a lot of this. Of their life.
Et les danseurs, ils viennent là, ils apportent leur vie de colère, mais de joie aussi, de volonté de prendre la vie à bras le corps aussi.
Very, lifeful kind of dance.
C'est une danse vraiment très vivante.
In another way, I can say that I work with the, them mais in the same way that I work with all the other.
Je peux dire que en même temps j'ai travaillé avec eux comme j'ai pu travailler avec d'autres interprètes hein, et d'autres techniques sur lesquelles j'avais pu travailler précédemment.
Dance,
parce que quand on commence à travailler avec la danse, à vrai dire, peu importe d'où on vient, ça ne fait pas une grande différence. Le ressenti, les émotions qui vont être vécues par les danseurs sont tout à fait comparables à toutes les émotions humaines. Alors, certes, on peut dire qu'il y a l'esprit de la favela. Oui, mais c'est pas forcément ce que je recherche le plus, moi, lorsque je commence à faire des recherches dans une danse ou une autre.
Et dans la pièce Cria que vous allez présenter aux rencontres internationales chorégraphiques de Seine-Saint-Denis, il y a aussi des danseurs qui reprennent des danses plus traditionnelles, qui les interprètent. Et ensuite, la musique est très forte. Et puis, il y a des moments de solitude, de silence. Qu'est-ce qui se joue dans ces moments sans musique où on a l'impression de rentrer dans l'intériorité des corps et des danseurs? Ou dans une solitude peut-être aussi?
There are some parts more theatrical parts.
Il y a des parties qui sont plus théâtrales. D'autres, on va utiliser la voix. Toute une recherche avec l'élocution, la manière de parler, mais c'est difficile à dire parce que pour moi-même c'est un travail et cette pièce qui est tout à fait nouvelle. Donc c'est intéressant d'entendre que vous avez perçu de la solitude, parce que
la partie
où il y a du mouvement, c'est très puissant, à telle enseigne que par moments il n'arrive même plus à respirer. Il y a des passages extrêmement rapides. Je pense que peut-être on peut effectivement voir ça différemment, mais c'est pas tout à fait clair pour moi. Je peux pas vous dire nettement parce que j'ai travaillé selon un processus vraiment intuitif.
Et il y a aussi l'obscurité qui arrive petit à petit et une certaine idée du danger aussi, ou en tout cas de quelque chose qui peut nous mettre à terre.
Yes, I think you can say. I mean,
oui.
For example, you asked about this favela thing.
Vous posez la question.
It's very
de la favela. Vous savez, le rapport entre la vie et la mort dans une favela, il est très étroit. Parfois, on a dû supprimer des répétitions parce qu'il y avait, par exemple, des règlements de compte ultra violents dans la favela. Autant vous dire que la mort est omniprésente, des parents, des proches, des parents, d'autant plus maintenant avec le gouvernement au pouvoir, la violence est légalisée, autorisée. Donc, elle occupe une partie importante de leur vie et puis de la mienne désormais, puisque nous sommes en lien, évidemment. En même temps, la vie, c'est ça aussi. On a des moments où on se sent très heureux, où tout va bien, tout se passe bien. Et puis, en un moment, en un instant, tout à coup, on est perdu, on est désemparé, on cherche quelque chose, un sens, une direction, et personne ne sait.
Et vous parlez du lien de la vie à la mort très fort dans ces endroits-là. Pour votre génération au Brésil, l'assassinat de Marielle Franco en mars 2018, cette militante des droits de l'homme, on en a beaucoup parlé. C'est un crime politique de grande ampleur. Qu'est-ce que ça a changé pour votre génération de voir ça, d'assister à ça et d'avoir l'impression que peut-être ça peut se banaliser?
Yeah, it's crazy. I mean, it's the most horrible.
C'est fou. Oui, enfin, évidemment, c'est abominable. C'est le crime politique le plus abominable que j'aurais connu dans ma vie.
Mais
pour nous, ça fait peur. On a la frousse. Hein. On est complètement perdu. On ne sait pas où on va dans ce pays.
Yeah, it's really new. It's difficult to say. I mean, people ask us a lot about
C'est très difficile à dire et c'est assez nouveau. C'est vrai qu'on nous pose beaucoup la question. J'avoue ne pas savoir vraiment quoi dire. Tout ce que je sais, c'est que tout ce qui se passe maintenant vient en réaction après les années des gouvernements de gauche. Et les choses, c'est un véritable revirement, une réaction très forte, un mouvement de balancier. Je ne sais pas, est-ce qu'on va en sortir? En tout cas, ça, c'est le jeu politique. Hein. C'est tout à fait nouveau. C'est trop nouveau pour qu'on puisse avoir une idée précise de ce qui va se passer.
Ibrahim Malouf prépare un album pour septembre autour des musiques latines, puisque comme il dit, ça fait aussi partie de lui. En attendant, il va entamer sa tournée d'été pour laquelle il invite le groupe Aïdouti Orchestar. Ensemble, ils font le pont entre l'Orient et les Balkans. Et en attendant, en studio, il est au piano. Ibrahim Malouf nous a dit que c'était un cadeau pour Chat Gonzalez. Et puisque c'était très cinématographique, puisque ça fait partie de la bande originale d'un film, peut-être vous auriez des images en tête en l'écoutant, Chat Gonzalez. Avant qu'on dise ce que c'est, est-ce que vous avez eu imaginé? Non, rien.
Absolument rien.
Pourtant, vous étiez très concentré, les yeux fermés.
Ben, ça m'a rappelé des souvenirs d'enfance. Et c'est un morceau assez mélancolique, donc... Des moments avec ma grand-mère.
Et vous êtes dans quel paysage quand vous écoutez?
En Bourgogne. Ouais, c'est une maison qu'elle avait passé pas mal de temps là-bas.
Donc vous n'êtes pas tout à fait en Bourgogne quand vous la composez, Ibrahim Malouf.
C'est une musique qui accompagne un film qui est sorti il n'y a pas très longtemps, un film de Safin Nebbou qui s'appelle Celle que vous croyez, et qui raconte l'histoire d'une femme d'un seul coup devient quelqu'un d'autre sur la toile. Je dis d'un seul coup parce que ça lui arrive brutalement. Elle devient une autre personne sur Internet et du coup vit une sorte de dichotomie entre sa réalité de femme cinquantenaire, etc., et de la personne qu'elle devient d'un seul coup sur Internet, c'est-à-dire une jeune femme de 22 ans. Et c'est toute cette problématique du regard qu'on porte sur soi-même quand on est une femme et qu'on prend de l'âge. Et donc la nostalgie qui réside dedans, c'est évidemment la nostalgie. On en revient à nos mamans et à nos grand-mères qu'on aime, mais c'est cette nostalgie de la femme qui est libre, mais qui malgré tout finira toujours enfermée dans le temps.
Et on va en parler, Chagoun Zalès, mais les temps différents de la vie justement et les identités qu'on se choisit ou pas, ça fait vraiment partie de votre travail, en tout cas sur la nuit, parce que c'est un espace où on peut décider d'être ailleurs et peut-être d'être quelqu'un d'autre aussi.
Je sais pas vraiment si on le décide. Je pense que c'est quelque chose qui est un peu plus fort que nous. On se retrouve dans ces lieux pour une raison et puis on en sort modifié, changé d'une certaine manière. Et on n'est pas, enfin, jamais vraiment indemne. Et puis, non, parfois, enfin, c'est un peu trop négatif de dire ça. Je pense que il peut y avoir quelque chose de plus nuancé dans l'effet que ça fait. Mais
en tout cas, c'est permis, cette modification.
Oui, bien sûr. Puis c'est une parenthèse un peu essentielle dans le monde dans lequel on vit.
Il y a eu une véritable folie. Et aujourd'hui, il y a une génération de Libanais issus de la guerre qui sont des phénomènes d'intolérance, d'accord, mais qui sont surtout, qui baignent surtout dans une totale amnésie. Ils n'habitent pas la mémoire collective. Vous leur parlez du centre-ville, ils ne réagissent pas. Ils n'ont pas connu, ils n'ont pas su ce que c'était, ils n'ont pas vécu dans leur chair les 600 ou 700 ans qu'il a fallu pour construire ce centre-ville depuis le dernier tremblement de terre qui a détruit Beyrouth. Car Beyrouth s'est construit sur 800 années, mais il y avait le Beyrouth romain, le Beyrouth phénicien, le Beyrouth grec, etc. Le Beyrouth arabe, évidemment. Donc, cette jeunesse sans mémoire, qui a grandi dans la violence, c'est là le grand problème libanais. Et reconstruire la ville, c'est relativement simple, mais redonner à une nation sa mémoire est autrement plus difficile et plus important.
C'est la voix de Hassan Tueni, journaliste, homme politique, Chat Gonzalès. Est-ce que vous avez vécu à Beyrouth de vos 11 à vos 16 ans? Quand vous y retournez et que vous voulez prendre des photos, votre envie, elle est très liée à celle d'enquêter ou en tout cas d'aller vers votre génération, celle qui a grandi pendant la guerre civile ou qui est née pendant la guerre civile mais qui a grandi après justement et qui se pose la question de la mémoire, de son histoire, de ce dont elle a hérité. Et au départ, vous vouliez être reporter de guerre. Est-ce que c'est lié à cette histoire-là?
Oui, et puis aussi par les premières images, enfin celles qui m'ont donné envie d'être photographe, c'était des images de guerre. Donc, et aussi parce que quand j'ai commencé la photo, je me suis retrouvée au milieu des manifestations assez, les premières manifestations violentes en 2006 du CPE et je crois que j'ai pris le goût de l'adrénaline et j'ai eu très vite envie de faire ça, mais ça m'est passé. j'ai écrit un mémoire sur la photographie de guerre et mon enquête m'a un petit peu éloignée de ce métier. Ouais.
Pourquoi?
Justement, la seule raison d'adrénaline et de... Je trouvais qu'éthiquement, c'était pas... Enfin, c'était pas pour moi. Je pensais que j'arriverais pas à gérer le côté éthique de ce métier. J'arriverais pas à l'appréhender.
Ibrahim Malouf, vous êtes à peu près de la même génération avec Chat Gonzalez. Vous êtes né en 80. Est-ce que le fait de vouloir devenir architecte quand vous êtes jeune, c'est lié à Beyrouth, à l'envie de reconstruire?
Ah, complètement. Complètement. J'ai... Toute mon enfance, je l'ai passée à me rêver héros de la reconstruction de mon pays. Parce qu'en fait, je revenais... En fait, moi, j'ai vécu toute ma vie en France. Mais on allait au Liban 3 mois chaque année. Donc, on quittait à peu près mi-juin, un peu avant la fin des cours. Et on revenait mi-septembre, un peu après le début des cours. Et quand tous mes potes racontaient qu'ils étaient allés à Chamonix, à New York, je sais pas où, on me demandait, toi, t'es allé où? Je dis, ben... C'est-à-dire que, et puis bon, évidemment, j'avais un peu, toujours un peu peur de leur dire que j'étais allé dans un pays en guerre civile, parce que ça, ils trouvaient ça toujours très bizarre, donc c'était un peu weird, comme diraient les Américains. Et donc, du coup, je leur disais qu'en fait, non, le Liban, c'était un super beau pays, ça ressemblait à New York, enfin, que pour l'instant, c'était peut-être pas encore tout à fait prêt, mais qu'on était sur le point d'y arriver, et que c'était super beau, que les plages étaient magnifiques, ce qui est pas faux d'ailleurs, que, voilà, que la ville était géniale, que les montagnes sont magnifiques, etc., donc, ce qui est pas faux non plus. Mais je leur dessinais un Liban qui n'avait rien à voir évidemment avec la réalité. Moi, quand j'arrivais là-bas, à l'époque, je sais pas si Chat se souvient, mais l'arrivée à l'aéroport, déjà, si on arrivait à atterrir déjà à l'aéroport, parce que souvent on n'arrivait pas à atterrir, donc on faisait demi-tour, on allait à Larnaca, à Chypre, on reprenait un bateau, on revenait la nuit, et les phares s'éteignaient la nuit à peu près 2 km, 3 km du port pour pas qu'on se fasse repérer pendant les bombardements, etc. Donc déjà, le fait d'arriver sur terre à ce moment-là, c'était déjà un énorme challenge. Mais ensuite, pour sortir de l'aéroport et aller à notre village qui est à peu près à 1 heure de route, mais c'était un parcours de combattant. Donc évidemment, ouais, je dessinais un autre Liban que la réalité. Et en grandissant, je me disais, je vais contribuer à ce que j'ai toujours dit que était le Liban. Je vais contribuer à ça.
Et vous racontiez que vos parents, quand ils sont arrivés en France, il y avait toujours cette idée du retour au Liban.
Ouais, même encore maintenant, mon père, il fait du déni total. D'ailleurs, ce que disait Hassan Twain, il a tout à l'heure, il parle de déni, en fait. C'est ça qui est, c'est le plus gros traumatisme qu'on peut avoir, même dans nos vies, c'est quand on refuse de regarder en face la réalité. Et moi, mes parents, c'est exactement ça, ils font du déni total. Même encore aujourd'hui, mes parents, ils vous disent, oui, on rentre au Liban bientôt, quoi. Et même ma grand-mère, elle a 97 ans, elle habite à la maison chez moi, c'est moi qui m'occupe d'elle. Elle vous dit toujours, moi je rentre là dans un mois. Dès que quelqu'un l'appelle, elle dit oui, là ça y est, je vais bientôt rentrer. À 97 ans, elle a passé 50 ans de sa vie en France.
Chat Gonzalez, pourquoi quand vous repartez au Liban, que vous décidez de ne pas être reporter de guerre, vous allez vers la fête et vers la nuit?
Alors c'était juste après d'ailleurs l'écriture de mon mémoire que je suis retournée au Liban suite à un espèce d'événement un peu mystique. qui m'a ramené là-bas. En fait, je me suis demandé comment parler de la guerre du Liban, qui m'a beaucoup fascinée. Enfin, j'ai lu beaucoup de livres à ce sujet, parce que contrairement à Ibrahim, moi, je ne l'ai pas vu, cette guerre civile. Et je crois que c'est quelque chose... Enfin, le récit que me faisaient les parents de mes amis, et tout ça, ça m'a beaucoup travaillé. Donc je suis revenue au Liban, oui, en voulant parler de la guerre, mais sans vraiment montrer le centre-ville, justement, et les choses auxquelles on s'attend. Et j'ai préféré photographier les jeunes la nuit et montrer en fait les moments où il y a du coup cette intériorité qui parle.
Et comment on réussit des photographies pendant la fête? Est-ce qu'il faut que ça nécessite que vous fassiez partie de la fête? Est-ce que vous dansez? Comment vous vous organisez? Parce que les photos, elles sont très très belles, elles sont très proches des corps, de la peau. Vous êtes comment, vous, avec votre corps à l'intérieur?
Comme j'ai parlé de mon père au début de l'émission...
Qui dansait?
Ouais. Je danse beaucoup. Et c'est pour ça aussi, au départ, que je vais dans les fêtes, Comme je bois pas et que je prends pas de drogue, c'est le seul moyen de partir un peu loin dans mon corps à moi. Donc je suis au milieu d'une fête, je danse, et puis de temps en temps je vois quelque chose et je le prends en photo.
Et c'est quoi qui fait sortir l'appareil photo?
Ben, c'est un visage, un dos, des mains posées, des embrassades, des gens ouais, qui ont l'air perdus, ou... c'est ça.
Et vous parlez de guerres intérieures et de luttes intérieures.
Mm-hmm.
C'est quoi dans ces fêtes?
Je pense que on se demande un peu tout ce qu'on fait là et que c'est un endroit où on arrive à toucher à un côté assez primal de nous-mêmes, assez assez dénudé, où ouais, on peut être un peu débarrassé de tout ce qui nous contraint dans la société. Et enfin, ça dépend quelle fête, hein, mais en tout cas les fêtes que je photographie, c'est ça.
Et Chat Gonzalez, c'est quoi la particularité des nuits de Beyrouth, justement? Parce que cette série qui s'appelle Abandon, vous allez dans des fêtes pas que au Liban, il y a aussi l'Ukraine,
oui.
Il y a Paris, il y a plusieurs endroits. Et au Liban, je crois que vous étiez il y a quelques années, et puis là pour l'exposition C'est Beyrouth, retournée. Vous y êtes retourné. Oui. Peut-être qu'il y a une différence aussi entre il y a 10 ans et aujourd'hui. C'est quoi la particularité des nuits
Alors, je crois pas qu'il y ait différence entre il y a... Alors, c'était en 2010, et donc oui, presque 10 ans plus tard. Je crois pas qu'il y ait de différence entre 2010 et maintenant, mais moi, je suis pas allée aux mêmes endroits, en fait. En 2010, je suis plutôt allée dans les bars, dans les endroits où les gens ouais, boivent et discutent et se lâchent pas forcément... Mais oui, en fait, c'est aussi partie d'une démarche d'aller vers des pays qui sont en guerre ou dans des situations, disons, entre deux, plutôt, et où j'ai envie de voir quelle est la tension qui existe et comment elle se traduit dans les fêtes. Et,
c'est pour ça que vous étiez en Ukraine.
Ouais, ouais, ouais. Et j'ai été assez surprise parce que en Ukraine, comme à Beyrouth, j'ai vu moins de gens qui se lâchent, justement, beaucoup plus de contrôle de l'image.
On va écouter un petit extrait d'un atelier de création radiophonique réalisé par Daniel Arbid en 2008, qui s'appelle « The Smell of Sex », et elle était allée interroger les jeunes Libanais sur la façon dont ils se rencontraient et donc comment ils se draguaient aussi la nuit.
يوم شفتك شفت وين وبأي عين يوم شفتك شفت وين وبأي عين.
Alors, dans cet endroit, on commence à discuter, et ça dure. Mais ce n'est pas une discussion comme toutes les autres discussions.
D'abord, tu commences à le mater. Et lui aussi, il te mate. Ensuite, tu te dis, je vais lui parler... Mais j'ai peur qu'il me dise non.
Il a planté ses yeux dans mes yeux. Et je ne peux pas t'expliquer ce que ça m'a fait.
Les deux sont excités, pressés. Ils ne sont pas habitués l'un à l'autre. Ils ne connaissent pas les corps l'un de l'autre.
Je suis passé tout proche. Et je l'ai frôlé. Et après, je suis allée me rasseoir. Alors, il a commencé à me mater. Et moi, je le matais aussi. À ce moment-là, je me suis dit, ma fille, cette nuit sera ta nuit.
Tu montes donc avec lui, car l'endroit se situe sur 2 étages. Tu vois ? D'abord, il y a beaucoup d'obscurité. Presque pas de lumière. C'est sombre. Les murs sont noirs. Et ça paraît très pauvre. Quand tu rentres dans cet endroit, tu sens ton cœur bondir, s'arrêter. Quelque chose qui se passe.
Les sous,
la tante
les...
fait.
De toute façon, tu vas là-bas juste pour te lâcher.
Et pour trouver.
Ce documentaire de Daniel Arbid, il raconte comment, après 1990, les jeunes aussi réinvestissent la nuit, leur corps, les relations, les fêtes. Chagh Gonzalez, est-ce que vous parlez avec certaines personnes que vous rencontrez la nuit, ou ne serait-ce que peut-être pour demander l'autorisation d'être là, de prendre des photos, mais aussi, je sais pas, pour avoir connaître quelque chose de ces visages et de ces corps?
Oui, je parle avec la plupart, en tout cas tous ceux qui sont reconnaissables dans mes photos. Presque, il y a quelques exceptions et j'essaye de les retrouver.
Et vous parlez de quoi ?
On parle de... C'est étrange. En fait, on parle de sujets à chaque fois très personnels. C'est des moments où on arrive à parler de choses dont on parlerait pas dans un appartement ou dans... Surtout quand il est 8h du matin... et qu'on a, je dirais, plus en paix avec ce qu'on est à ce moment-là, quoi. On a passé une nuit à danser et on n'est pas parti, on est resté, on n'arrive pas à partir d'ailleurs. Et ouais, et on parle pendant des heures. C'est génial.
Et dans ces endroits-là, qu'est-ce qui vous fait peur et qu'est-ce qui vous rassure, vous ?
Moi, ce qui me fait peur, c'est l'alcool. Et, enfin, l'effet que ça a sur les gens. Après, c'est à travers la photo que j'ai réussi à un peu combattre cette phobie. En fait, mon appareil est en même temps un peu un bouclier, on va dire. Mais pas vraiment, parce que au final, maintenant, je peux être sans et ça me pose beaucoup, beaucoup moins de problèmes qu'avant.
On va pouvoir refermer les yeux, Chagh Gonzalez, et écouter le deuxième morceau d'Ibrahim Malouf.
C'est parti. Thank you.
Vous étiez de retour en Bourgogne, Chat Gonzalez? Ou ailleurs?
Non, là j'étais plus dans le sud. Dans le sud-ouest.
Et il se passait quoi?
On était à la plage. On était bien.
Ça fait partie de notre bande originale d'un film, Ibrahim Malouf. On est dans quel paysage?
Là, on est dans les forêts de Sibérie.
Donc pas du tout...
C'est pas du tout la plage.
Chacun est très libre d'interpréter comme il le veut.
En tout cas, j'aime bien l'idée des vagues. Et même en Sibérie, il y a un moment où sa fille, Nebu, filme la fonte des glaces. Et c'est sublime. D'ailleurs, c'est des images incroyables. On les voit... on voit les glaciers se casser, se fissurer et tomber et devenir de l'eau. Et du coup, ça rejoint la plage. Voilà. C'est histoire de créer un lien avec...
Non, mais c'est vrai que l'Atlantique, c'est des très grosses masses d'eau qui s'avancent.
On s'approche de minuit. Est-ce que vous avez un souvenir particulier d'une des nuits les plus fortes que vous ayez passées quelque part, une image? Chat Gonzalez, il y en a eu beaucoup, mais...
Oui. En fait, les nuits les plus fortes, c'est celles où j'arrive à me lâcher moi-même le plus. Après, il y a aussi celles où moi, je me lâche pas à fond, et par contre, les gens, oui. Il y a eu le nouvel an de 2018, où c'était incroyable. Où tout le monde dansait dans le noir, il n'y avait pas de lumière. J'étais frustrée parce que je ne pouvais pas prendre de photos. Il n'y avait vraiment rien à prendre. Et là, c'était un lieu qui était squatté pour l'occasion. Et c'était au rez-de-chaussée. Et il y avait des rideaux de fer parce que c'était un espace boutique, je pense. Et les rideaux de fer se sont levés à... Il devait être 13 heures. Le premier au matin, enfin au midi du coup, et les rideaux de fer se sont levés et la lumière vraiment a empli l'espace et vraiment c'était un espèce de sentiment, enfin de voir tout ce qui était dans le noir s'éclairer, c'était vraiment beau. Et voilà, j'ai une de mes photos, enfin une des photos que je préfère, que j'ai prise à ce moment-là. Ouais.
Ibrahim Malouf, vous avez une image de nuit forte?
J'en ai plein, surtout des concerts et tout. Mais non, mais au moment où, en tout cas, vous avez posé la question, je repense aux nuits que je passe quand je suis à la montagne, au Liban. Et c'est pas du tout pour faire le cliché de la montagne libanaise ou quoi que ce soit, mais vraiment, j'adore ces moments-là parce que c'est les seuls moments où je suis vraiment au calme. Parce qu'en général, quand je suis en France, c'est tout le temps plein de travail, plein de choses. Mais quand je vais là-bas, je m'isole un peu. Donc le téléphone passe un peu moins bien et je travaille beaucoup moins. Et la nuit, j'adore parce qu'il fait très très beau l'été. Et donc je peux être en t-shirt ou quoi. Et je m'allonge sur une sorte de balancelle qui est dans le jardin. Et je suis en accord avec la nature. J'entends la nature, j'entends les petits animaux, j'entends même quand il y a des petits animaux qui marchent peut-être des serpents ou je sais pas quoi dans la forêt juste à côté. Tout. J'entends cette nature-là et je me sens en accord vraiment avec moi-même. Et j'adore ces moments-là. C'est des moments qui sont très très rares dans ma vie en tout cas. Et à ce moment-là, j'en profite vraiment quand j'ai les yeux grands ouverts, là j'écarquille les yeux et je profite de chaque seconde de cette nuit.
Voilà. Ouais, j'adore ces moments-là aussi.
Alice Ripoll, on approche de minuit. Est-ce que vous avez en tête une image d'une des nuits les plus fortes de votre vie, une image de nuit?
I don't know. The first thing I remember now, it's crazy because I am very light person.
À l'esprit là, à brûle pour point. C'est fou d'ailleurs, c'est assez amusant. Parce que moi je suis vraiment un oiseau de nuit, je vis la nuit, je me réveille, je vais boire quelque chose, écrire, je réfléchis, vraiment je suis un oiseau de nuit. Et depuis 3 ans que j'ai un fils, un enfant, ma vie a complètement changé, il faut que je vive le jour bien sûr. Je n'ai plus cette vie nocturne comme je l'avais.
Yeah, so it's something that I lost.
C'est quelque chose que j'ai perdu.
I love the night. It was really my place.
J'adore la nuit. C'est mon domaine. C'est mon territoire.
So I have a lot of memories. Yes, I think.
Donc, j'ai beaucoup de souvenirs. The most important memories are les with my plus friends. Importants, the c'est probablement avec mes amis. Les moments où on boit un verre, où on discute ensemble du travail, de comment on voit les choses. Et on réfléchit ensemble, on se demande comment on va procéder, comment on va faire les choses. On pense au Brésil aussi. C'est une partie très importante de ma vie, ce moment nocturne.
Su infancia asomada, sueños de cielo que tuvo sin hambre en la escuela, volaría lejos a secarle el rocío una estrella.
On sera parti de la douane du regard qui juge et qui fouille pour réinventer des façons de voir. Alice Ripoll, la pièce Cria, les 15 et 16 juin aux Rencontres internationales de Seine-Saint-Denis. Chat Gonzalez participe à l'exposition C'est Beyrouth jusqu'au 28 juillet à l'Institut des Cultures d'Islam à Paris. Ibrahim Malouf, avant le nouvel album qui sort le 27 septembre, part en tournée d'été avec Aïdouti Orchestar partout en France et il organise le festival M'improvise du 13 au 16 juin, c'est à Étampes. Avant la nuit, je dis merci à Inès Dupéran pour la préparation de l'émission. Merci à Lionel Quentin pour la réalisation et à la technique ce soir. Merci à Guillaume Ledu. Merci à Hélène Joguet-Lejean pour la traduction. Vous écoutez France Culture, il est presque minuit. Dans quelques instants, ce sera demain, ce sera dimanche et ce sera l'heure des nuits.
Señora Diana, la vie despertando de un cielo. Supo que todos no tienen su infancia de sueños. Aprenderá un juego de cambiarle el color a otros cielos y en el jugar abrirá un cielo nuevo.